jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. Vous le connaissez sûrement comme acteur. La consécration a été son rôle d'Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais autant le dire tout de suite, il n'en sera pas question une seule fois durant notre échange. Car s'il est avec nous ce midi, c'est pour la sortie de son deuxième film. Après Falling, son premier long métrage, un drame sur la relation entre un père vieillissant et son fils, il vient en effet de réaliser un western féministe. Jusqu'au bout du monde raconte l'existence de Vivienne, une femme libre qui ne veut appartenir à personne, pas même à Olsen dont elle tombe amoureuse. Une histoire de liberté et de liens, de comment fabriquer des liens sans s'aliéner à l'autre, le tout dans le Nevada du 19e siècle et sur fond de guerre de sécession.
Bonjour Viggo Mortensen.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture et bonjour à vous Florence Roucou-Conan. Vous allez traduire Viggo Mortensen pour nous durant cet entretien.
Viggo Mortensen, le titre original de votre film, c'est « The Dead Don't Hurt ». Pourquoi ce titre de film ?
En anglais, ça veut dire deux choses. Et c'est difficile à traduire ce titre en français. C'est pour ça qu'on a trouvé une autre phrase du film pour le titre en français.
Oui, en français,
en espagnol aussi, c'est... Le titre va être « Hasta el fin del mundo ». C'est la même chose que « Jusqu'au bout du monde ».«
The dead don't hurt » en anglais, ça veut à la fois dire « Les morts ne peuvent plus faire de mal et les morts ne peuvent pas souffrir ». Pourquoi vous avez retenu cette phrase-là qui avait ce double sens ?
J'avais pas un titre. Et quand j'ai terminé d'écrire le scénario, je cherchais... C'est souvent qu'on peut trouver le titre dans le film. Et quand j'ai vu cette phrase du père au fils, à l'enfant, je pensais que c'était intéressant, et spécialement en anglais, à cause du double...
Du double sens.
Sens, oui.
So where are you from?
Vivienne, la Coudie.
It's a very long story.
I have plenty of time.
C'est ici.
Le bout du monde.
On dirait un repère de bandits.
Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester.
Foutaise-en. Je cherche un emploi.
Bah, GG.
Il est là que...
Pourquoi ?
J'adore travailler et gagner mon propre argent.
On cherche des hommes d'honneur. Prêt à se battre pour sauver l'Union.
Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays.
Je veux faire ce qui est juste.
On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début.
C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider.
Je peux y arriver seule.
Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentré.
Je vais bien, Monsieur Jeffries. Comment était ta guerre ?
Pas comme je l'imaginais. Et la tienne ?
Va-t-il poser un problème ?
Je ne crois pas, non.
Cette ville est notre poule aux œufs d'or !
Je n'ai jamais voulu être sauvée.
Alors, si je résume le film, d'ailleurs, j'ai eu... un peu de mal à résumer le film tel quel, à trouver une bonne manière de le résumer. Je dirais que c'est l'histoire de Vivienne Le Coudy, qui est une jeune fleuriste avec un esprit très indépendant, irrévérencieuse, qui est d'origine canadienne, qui a immigré aux États-Unis et qui rencontre Olsen, qui lui est un charpentier danois. Ils se rencontrent à San Francisco dans les années 1860. Ils tombent amoureux, ils s'installent dans le Nevada, et puis Olsen décide de s'engager dans la guerre de sécession. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est un bon résumé de votre film ? Moi, j'ai l'impression que ça ne rend pas vraiment hommage ce qu'il y a dans votre film.
Ça marche, à part le fait que Vivienne est en réalité américaine. Elle est du nord-est, près de la frontière canadienne. Elle est francophone, comme ses parents. Mais elle est, comme elle dit à Olsen, la première fois qu'il parle, elle dit qu'elle est américaine. Et c'est ça qu'elle est. elle est francophone, mais il y a une diversité en ce moment, comme maintenant, aux États-Unis. Et nous voulons montrer ça jusqu'à un certain point. C'est pas normal dans un western classique, dans ce genre, d'avoir des personnages principaux qui ne sont des anglo-saxons.
Des anglo-saxons.
Ouais.
ça va, j'ai compris.
Et on montre la réalité de la frontière et du pays en ce moment. Et c'était pour ça. Mais c'est vrai que l'histoire, c'est d'une femme indépendante, libre, qui est en train de pousser ses propres frontières comme femme. Et que c'est aussi une histoire d'amour. Une histoire d'une relation de confiance entre une femme et un homme. Et je trouvais intéressant de placer cette histoire d'une femme indépendante, libre, dans le 19e siècle, dans un endroit, dans une société dominée par des hommes, hors la loi. Et je trouvais que le contraste entre l'histoire de cette femme et du pays en ce moment, que c'était intéressant.
Pourquoi vous avez eu envie de faire l'histoire de cette femme et même avant ça, en fait, d'une femme?
Je sais pas. J'ai commencé à écrire. La première image qui m'est venue, c'était d'une fille qui court et rêve dans une forêt d'érables et de chênes au nord-est du pays. Et c'était une image de ma mère, ce que j'imagine était son enfance un peu. Mais elle n'était pas du 19e siècle, bien sûr. Mais j'ai placé cette fille dans le 19e siècle. Et puis je me demandais, qu'est-ce qui se passe avec elle? Il se peut que il serait plus intéressant de commencer avec les faits des choses, de montrer ça avant les causes. Et c'est comme ça que j'arrivais à la structure de l'histoire.
C'est un film qui est assez surprenant parce qu'il est présenté aussi, et ça je ne l'ai pas dit, comme un western. Or, on est assez dérouté déjà parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'il s'agit plus d'un film, d'un portrait de femme, et que les codes du western sont complètement détournés. Et autre chose surprenante, c'est que vous commencez par la fin de Vivienne.
Oui, c'est ça que je disais. J'ai commencé avec les faits avant la cause. Mais je ne suis pas d'accord que j'ai changé ou réinventé les codes du western. J'ai suivi fidèlement les codes. Par exemple, la photographie faite par Marcel Ziskind est faite d'une manière simple, élégante. Le travail de la caméra n'attire inutilement l'attention à ce qu'on voit. On voit les personnages dans les paysages, dans les endroits du film. Et les vêtements, les décors, l'architecture, le vocabulaire, le travail avec les chevaux, tout ça, j'ai suivi les codes du western classique. C'est un western classique, à mon avis. La différence, c'est ce que vous avez dit, et c'est différent que nous nous concentrons sur le personnage principal féminin et que qu'on reste avec elle quand son partenaire masculin part à la guerre. Par ça, c'est un western classique.
Et il y a aussi quand même cette dimension, là où c'est déroutant par rapport au western classique aussi, cette dimension sentimentale, mais je dirais presque romantique. Parce qu'il y a des histoires d'amour dans des westerns. Mmh. Il y a l'amour aussi de la justice, il y a le fait de défendre les siens, il y a de l'amour filial. Mais là, c'est hyper romantique. Moi, je me suis même demandé s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de la comédie romantique. Que ça vous avait un peu titillé au moins de faire ça.
Pas seulement dans le genre des westerns, mais généralement au cinéma, j'aime voir des choses et j'aime pas voir des choses. On peut raconter beaucoup entre les mots, dans le silence. On peut donner l'idée d'une autre vie, des autres scènes qu'on va pas voir, avec une phrase, avec une image. C'est pas seulement dans le western, c'est aussi ce que Lubitsch a fait plusieurs fois. Il était fameux pour ça, de ne montrer les choses, mais de donner envie de voir des choses.
Now, Pyrovich, I don't want to know what she looks like. If she's bad looking, I've had enough bad news for today, and if she's lovely, it'll just make it more difficult, so don't tell me.
No, I won't. Now, what's the name of that book?
Anna Karenina by Tolstoy.
Anna Karenina.
Anna Karenina. And a red carnation is a bookmark.
Red carnation. Let me see, just a minute.
See anything?
Not yet, sir. Oh, there's a beautiful girl.
Really?
Very beautiful. But no book.
No book.
Wait a minute. I think I see it.
Yeah?
Right here under the window. Yes. Anna Karenina by Tolstoy.
That's right.
And a carnation.
Uh-huh.
I should say, she looks... She has a little of the coloring of... Of Clara.
Clara? What, Miss Novak of the shop, yeah?
No, Karlik, you must admit, Clara's a very good-looking girl, and personally, I always found her a very likable girl.
Yeah, well, this is a fine time to talk about Miss Novak now.
Well, if you don't like Miss Novak, I can tell you right now you won't like that girl.
Why?
Because it is Miss Novak.
C'est ça que j'ai fait dans ce film, et je crois que avec mon premier film aussi, Falling, mais spécialement avec Jusqu'au bout du monde.
Alors, comment ça se fabrique?
Mais il faut avoir des bons acteurs. Il faut avoir une Vivienne comme Vicky Krieps, qui peut bien travailler, peut faire des choses formidables dans le silence, peut transmettre toutes sortes de pensées, de sentiments dans le silence. C'est nécessaire, mais c'est le cas avec Solly McLeod, très jeune acteur. Il avait 21 ans quand on a fait son casting. Il a 23 maintenant, je crois. Et il travaille très bien dans la silence aussi. Et c'était bien. Quand Vicky avait dit qu'elle était prête à jouer ce rôle, nous savions qu'il y avait... la possibilité de créer un beau western avec une femme forte et indépendante au centre de l'histoire. Elle a dépassé tous nos espoirs au début du tournage.
Viggo Mortensen, ça veut dire que ces silences, vous les mettez déjà dans le scénario, sur le papier, ou alors ça se fait au moment du tournage? Et là, vous vous dites, ça fonctionne, elle n'a pas besoin d'en dire plus. C'est pensé déjà dès l'origine du film?
Oui, c'était là dans le scénario. Et on ne sait jamais si ça va aller ou pas. Mais avec les acteurs que j'avais, je savais que je pouvais faire beaucoup. Aussi avec Danny Houston, Garrett Dillahunt, le père de Weston dans l'histoire. Qu'ils étaient capables de faire ça, que je voulais voir.
Ces silences dont vous parlez, Viggo Mortensen, qui apparaissent dès le scénario et qui apparaissent ensuite dans votre manière de tourner, dans la manière dont on va les voir à l'écran, il faut qu'ils traduisent aussi des intentions. Par exemple, comment se fabriquent les liens, comment cet amour passe entre Vivienne et Olsen, comment Olsen va lui après... devoir fabriquer un lien avec un autre être qu'il va rencontrer durant le film, j'en dis pas plus. Ça, il faut pas que ce soit non plus trop appuyé dans les silences. Parfois, les silences sont aussi un peu lourds. C'est d'ailleurs qu'on peut se dire...
Ça dépend.
C'est un moment d'intention.
Ça dépend des acteurs, et ça dépend de la manière de réaliser et du talent des acteurs. Mais j'ai eu de la chance. J'avais une bonne équipe. Des techniciens, j'avais un excellent groupe d'acteurs. Et j'ai pu faire ça, heureusement. Et il y a un risque quand on raconte une histoire d'amour qui commence et devient une forte histoire d'amour, de le faire d'une manière très simple et très vite. Si ça marche pas, le film ne marche pas. Ça fonctionne pas. Mais avec Vicky,
tout pouvait marcher.
Je pensais que entre nous, on pouvait créer une telle relation.
Mais justement, vous l'avez dit, ça dépend des acteurs, mais ça dépend aussi des choix qu'on fait comme réalisateur. C'est votre deuxième film, vous l'avez dit, Viggo Mortensen. Là, est-ce que vous avez l'impression de vous affirmer comme réalisateur, de faire des meilleurs choix que sur votre premier film, d'être plus à l'aise, d'arriver à résoudre des problèmes de mise en scène sur le moment, de vous adapter au décor? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous savez qui vous êtes aujourd'hui comme réalisateur?
J'aime les deux films, ils sont différents, mais le deuxième film, je crois que j'avais... I'll say this in English. I think the difference is that I knew what I wanted to do.
Je savais exactement ce que je voulais faire au début.
With the first film.
Et avec, donc avec le premier film.
But with the second one, I was more confident.
Avec le deuxième, j'ai gagné en confiance.
About insisting on
en
what I wanted to do.
Je savais, j'insistais pour aller là où je voulais vraiment aller.
But still doing what I had learned from ce que j'avais appris des, en faisant ce que j'avais appris des bons réalisateurs, j'ai eu de la chance. J'ai travaillé avec des hommes, des femmes qui savent faire du bon cinéma dans ma carrière. Et l'école du cinéma, pour moi, ça a été les tournages. Et c'était très important de bien préparer tout, mais aussi très important de rester ouvert tout le temps, jusqu'au bout du montage, mixage du son, tout le tournage, bien sûr, ouvert aux idées, aux suggestions de l'équipe et des acteurs. On n'a qu'une chance pour construire, pour faire une scène, et une chance pour raconter une histoire. Et c'est pratique, c'est efficace, c'est intelligent, à mon avis. C'est ça que j'ai appris des autres. D'écouter. Une bonne idée peut arriver de n'importe où ou de n'importe qui.
Vous écoutez vraiment toutes les idées qu'on vous suggère?
Oui, j'essaye de faire.
Est-ce que vous avez été surpris parfois de ne pas avoir eu une idée qu'on vous a suggérée et vous vous êtes dit, mais évidemment, c'était si simple là pour...
Il y a plein de choses qui ont changé un peu pendant le tournage. Par exemple, quand un acteur a une difficulté avec une phrase, là, on peut parler avec eux et dire pourquoi tu peux pas avec cette phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il faut changer la phrase ou il se peut que, ou si le jeu est bon, de temps en temps, j'ai enlevé des mots ou une phrase. Parce que je pouvais voir à l'heure d'écrire, c'est une chose, j'imagine tout. Et puis on est là pendant le tournage et c'est évident qu'une phrase n'est pas nécessaire pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Ce genre de choses. Ou si quelqu'un, on prépare tous les shots pour tous les plans, chaque jour, on sait qu'on veut faire. Et puis, si on a fait tout, et le directeur de la photographie ou un des comédiens viennent avec une bonne idée, on a le temps, on peut essayer. On sait jamais. Et de temps en temps, ça a été quelque chose utile que j'utilisais pendant le montage.
Pourquoi vous avez eu envie de réaliser des films?
J'aime surtout le travail collectif. Le voyage du scénario à l'écran, je trouve toujours intéressant, c'est toujours différent, mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça soit plus simple, plus facile, plus pratique. C'est aussi ça que j'ai appris des bons réalisateurs. Et les deux films, on a terminé juste le jour qu'on devait terminer, le premier film. Et ce film, qui était plus difficile, on a terminé avec le tournage un jour avant. Nous étions bien préparés et efficaces comme équipe.
Donc vous aimez bien la ponctualité, vous aimez être efficace et ponctuel.
Oui.
Mais est-ce que c'est que le travail collectif qui vous a attiré dans la réalisation ou c'est aussi parce que vous pensiez qu'il y a des choses que vous aviez vous envie de dire, mm-hmm. d'une certaine manière, que vous ne voyez pas au cinéma?
Peut-être. Il y a des choses qu'on... J'apprends aussi de chaque film terminé quand je le vois à l'écran. Il y a des choix des réalisateurs ou de la production, choses du montage que j'ai trouvé de temps en temps surprenant, pas nécessaire.
Raté.
Ou pas suffisant. Que chaque personne a une idée différente du cinéma. Et je voulais faire, en tant que réalisateur, je voulais faire Falling et Jusqu'au bout du monde pour un spectateur, pour moi, et pas pour les autres.
Et pourquoi? Vous vouliez vous montrer quoi?
Je voulais montrer ce que je voulais voir. Et puis après, quand tu vois le film, c'est ton film. Il se peut que je ne serais pas d'accord avec toutes tes interprétations, toutes tes perspectives du film, mais on peut parler. Je respecte ton point de vue sur ton film, qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. C'est pas mon film, c'est ton film.
When grandma died, did she say something special?
Quand mamie est morte, elle a dit quelque chose de particulier.
When she was dying, que dijo?
Quand elle est morte, que dijo?
Si tu veux, on en parlera.
Papy, elle a dit quoi, mamie Gwen, quand elle est morte?
Ce qu'elle a dit?
Oui, avant de mourir.
J'en ai pas la moindre idée.
Nous n'en savons rien, chérie. Les gens parlent pas toujours. Ils n'y arrivent pas. Ou ils ne savent pas quoi dire. Dans leurs derniers instants.
Les mots ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus important.
Tu ne sais plus ce que mamie Gwen a dit, papy? Ou est-ce que tu as oublié parce que tu es trop vieux?
On n'était pas avec elle.
Excuse-moi. Veuillez m'excuser, mesdames. Et... mesdames. Je vais couler un bronze.
Oh, les toilettes sont au fond. Je vais te montrer.
Non, non, je connais le chemin.
Il connaît le chemin.
Oui, t'inquiète pas.
Grosse pute.
Qu'est-ce que tu diras, toi, papa?
J'en sais rien. On ne sait jamais avant d'y être, chérie.
Tu crois que tu vas dire ça?
En fait, c'est pas une mauvaise idée.
Actually, that's a pretty good one. You never know until you get there, honey.
Entre Falling, votre premier film, et celui-ci, Jusqu'au bout du monde, la question de faire famille, de créer une famille, de qu'est-ce qui maintient des liens familiaux, revient, se pose. Mm. Pourquoi ce sujet-là, en fait, revient de votre premier film à ce deuxième film? Je ne sais pas de quoi vous parlerez dans le troisième, vous en avez peut-être déjà une idée. Mais il y a quand même cette question-là de qu'est-ce qui fait qu'un lien familial, qu'il soit créé, qu'il soit naturel, se maintient ou ne se maintient pas? Pourquoi cette question-là, ça vous travaille?
Je crois que c'est l'expérience de normale, pas pour tout le monde, mais pour des êtres humains. On a un père, une mère, ou les deux, ou rien. Mais on est grandi dans un endroit, ou plusieurs endroits. On a des influences dans la vie, et on veut peut-être faire une connexion, se communiquer avec des autres. Faire une famille, c'est une forme de se communiquer, de peut-être pas être seul dans la vie, c'est ça.
Donc c'est ça ce sujet qui vous intéresse, c'est pas tant la famille que éviter la solitude.
À vrai dire, j'ai pas pensé aux idées ni concept, à l'heure d'écrire l'histoire, je compte avec toutes mes expériences dans la vie, aussi comme cinéphile, mais ce que j'ai vécu toute ma vie, je sais que ça va me donner des choses dont je suis conscient de certains, mais pas de tout. Peut-être la plupart, c'est sans y penser. Ça va m'aider, ça va me limiter, et ça va être tout mon expérience va être mon guide à l'heure d'écrire, tourner, monter.
Viggo Mortensen, j'aimerais vous faire écouter la voix d'un philosophe français que vous avez beaucoup lu.
Pourquoi l'homme d'aujourd'hui est-il plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe, par exemple ?
Et naturellement, il y est plus sensible puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé, en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair, en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe, qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains, n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
Albert Camus. J'ai lu ça à New York en anglais une fois.
Vous n'avez jamais lu du Camus en français parce que vous parlez très bien français.
Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'aime l'écouter. J'aime ses idées. Il est comme Vivienne. Un être libre. C'est ça que je respecte. À part ça, ses livres que j'aime. La littérature de Camus, j'ai un grand respect pour lui comme homme libre.
Mais vous l'avez lu très jeune, parce que vous avez aussi beaucoup lu du Camus, notamment pour un film que vous avez interprété en 2015, c'était Loin des hommes de David Holofernes. Mais vous l'aviez lu avant. Qu'est-ce qui vous avait attiré chez Camus comme ça, alors que...
Bon, c'est alors que je sais l'indépendance... Pas. De l'homme, son esprit libre, son libre pensée de Camus, ça m'attirait toujours. Et c'était intéressant qu'on avait fait le film Loin des hommes, à l'heure de lancer le film en France. J'étais surpris, même si je savais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il avait dit la vérité sur Staline et certaines choses désagréables vis-à-vis l'Union soviétique, le comportement de Staline et son gouvernement vers le peuple russe, qui n'était pas si différent que le comportement des Allemands pendant la guerre. Et on a fortement critiqué Camus, spécialement Sartre, Simone de Beauvoir, des autres. Et j'étais surpris à l'heure de lancer le film en France. C'est un beau film, je trouve, fidèle à la nouvelle, le conte de Camus, que une partie, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche reste contre lui, le considère un homme conservateur. Il reste un problématique pour une partie de la gauche française que je trouve absurde.
Ah bah absurde, justement, c'est le bon terme pour Camus. Dans cette archive, on entend Camus comprendre le désarroi des hommes, le sentiment d'absurde qu'ils ressentent, et il dit que les hommes ont le choix entre la servitude et la folie, mais il propose une autre voie, c'est celle des intellectuels. C'est intéressant parce que j'aurais pensé que Camus dirait la troisième voie, ce serait celle des artistes. Mmh. Est-ce que vous voyez cette entre la servitude et la folie, est-ce que c'est l'art qui permet d'éviter l'un ou l'autre ?
Le point de départ, peut-être dans ce contexte, mais peut-être toujours...
C'était en 1955, l'archive.
Oui, mais je dis pour Camus, je crois que son point de départ, c'est un point de départ artistique, mais académique aussi. Ce n'est pas le cas avec moi. J'aime pas, surtout avant de tourner un film ou d'écrire de la poésie ou de créer quelque chose, j'aime pas analyser ni parler d'une manière conceptuelle du cinéma, de la littérature. Je veux essayer de raconter quelque chose et je sais que, comme j'ai dit avant, que mon expérience dans la vie va aider tous les livres que j'ai lus, tous les films que j'ai vus, ça va m'aider à raconter quelque chose. Et puis après, on peut parler de ça si on veut. Ça ne m'intéresse pas beaucoup non plus. J'aime beaucoup plus faire du cinéma que...
Qu'en parler.
Même si c'est intéressant, de temps en temps. Une conversation comme la conversation avec vous, c'est intéressant. Et que vous avez choisi Camus pour cette conversation, je trouve intéressant et stimulant.
Vous avez dit que vous avez monté une maison d'édition, Perceval Press. Mm. Vous dites que vous n'aimez pas analyser ou réfléchir, enfin que vous êtes moins intéressé par les choses conceptuelles. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais ça vous intéresse moins. Mm. Alors qu'est-ce qui vous porte dans le fait de faire des choses, dans le fait de créer des choses? C'est de susciter de l'émotion aussi vis-à-vis du public ou vis-à-vis de vos lecteurs?
Non, je pense pas. Quand j'écris,
vous voulez qu'ils réfléchissent ou qu'ils
j'écris qui pour moi et je fais du cinéma pour moi.
Mais non, j'y crois
mais
pas.
Mais je veux le partager.
Oui.
C'est sûr. J'aimerais beaucoup plus que le public disait « Ah, c'est un bon film, Vicky est merveilleuse, c'était un grand western ». J'aimerais ça. Mais je compte pas avec ça à l'heure de l'écrire et de le faire. Mais c'est un business aussi. On a besoin du public. On a besoin d'un certain succès critique et économique pour avoir l'opportunité de faire un troisième film.
Mais moi, je parle pas que d'argent. Viggo Mortensen, je parle aussi en fait de prenons-moi par exemple. J'ai vu votre film.
Uh-huh.
Vous. Et qu'est-ce qui vous aurait fait le plus plaisir ? C'est-à-dire que je pense à la question de la filiation, ou que je pleure ?
Que ça t'intéresse suffisamment pour penser et sentir ce que tu veux. Mais quelque chose. Si t'as rien à dire après de voir le film, c'est un problème.
Non, j'ai pas rien à dire. Je vais pas le dire ici, mais j'ai pas rien à dire.
Ou rien. Si t'as pas des questions ou des observations pour notre film, c'est un problème, évidemment.
Mais non,
mais c'est pas le cas.
Non, mais donc voilà, vous voulez que ça suscite de la discussion, en fait, que ça crée des choses, que ça provoque des choses.
Oui, c'est une forme de me communiquer. Tout ce que je fais dans la vie, écrire, faire du cinéma, la peinture, la musique, c'est une forme de me communiquer, de partager, c'est vrai, et de ne pas oublier. On va oublier tout. Il y aura un moment où on se souvient pas. Si on devient très vieux, on va pas se souvenir de tout. Et je trouve normal et nécessaire, depuis mon enfance, d'enregistrer d'une certaine façon tout ce que je vois, tout ce que je sens, pour... J'essayais d'avoir un journal plusieurs fois, mais ça ne me va pas. Je trouve ça ennuyant, boring.
Ennuyeux.
To write a diary, it's not...
Écrire un journal,
c'est pas... Et ce que je fais des choses, même une conversation avec toi ou avec une personne, c'est une façon de me souvenir du film ou de ce qui se passait au moment d'écrire le scénario ou de tourner, etc.
Donc c'est des beaux souvenirs.
Oui. Et des toutes sortes de souvenirs. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas oublier, d'oublier moins, le moins possible.
Merci beaucoup, Viggo Mortensen.
Merci à vous.
Mercredi 1er mai, on pourra donc découvrir en salle votre deuxième film, Jusqu'au bout du monde, et c'est avec l'exceptionnel Vicky Krieps.
Viggo Mortensen, pour terminer, on va écouter l'un de ses souvenirs. On a choisi deux chansons, une chanson sur la lune ou une chanson sur le soleil, deux chansons que vous avez composées. Laquelle choisissez-vous ? La lune ou le soleil ?
La lune. Je change d'avis.
Alors allez-y.
Le soleil.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, on se quitte sur Sunrise que vous avez composé, Viggo Mortensen. Encore merci à vous et merci à Florence Roucou-Conan. Et merci aussi à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Daphné Leblond, prise de son Yvan Charby. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
Merci Géraldine, à demain.